Bonsoir à toutes, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour Turbine, enregistrée au Media Lab du WIP et diffusée sur la Station B et Radio Pulse, émission qui est disponible en podcast sur l'audioblog d'Arte, mais aussi Deezer et Spotify. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie en collectif, sujet qui est très cher au WIP, vous imaginez bien, en tant que tiers-lieu. On va en parler ensemble. Aujourd'hui, je suis entouré d'Alain, d'Oxane, de David, de Raphaël et de Lafken. Derrière la console aussi, Marion, Maxence et Thomas qui trifouille sa trousse, on ne sait pas trop. Comment est-ce que ça va?
Bah, super.
Ouais.
Merci, au top.
Ravi d'être là.
Ravi d'être en collectif.
Voilà.
Évidemment,
oui.
C'est toujours un plaisir.
Ouais. On s'aime.
Ouais, c'est beau, ça c'est le début d'un beau collectif. Bah, petit tour de table, en fait, qu'est-ce que ça vous inspire la vie en collectif? C'est une bonne raclette avec un verre de vin entre voisins? C'est une émission de Bonjour Turbine au Media Lab? Qu'est-ce que c'est pour vous la vie en collectif?
La vie en collectif, c'est des contraintes parce qu'il faut organiser un certain nombre de choses, genre les tâches ingrates, faire le ménage, laver les torchons et tout. Mais en même temps, quand on est plusieurs, on peut faire des trucs un peu plus ouf, donc ça c'est cool.
Ok. Et toi, David, pour toi, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, je me reconnais bien dans la définition de Raphaël. La vie en collectif se permet quand même de faire un certain nombre de choses qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Donc, je vois plus d'inconvénients, davantage que d'inconvénients.
Ah, le lapsus.
Voilà, un petit... Non, mais ce n'est pas un lapsus révélateur pour le coup.
Ah.
Je suis plus collectif que... D'ailleurs, même dans le sport, je préfère les sports collectifs qu'au sport individuel.
Et Oxane?
Bah moi, la vie en collectif, mais sur le côté un peu hébergement, pour moi, ça reste un peu une utopie, parce que, pour moi, hein,
ouais.
Parce que ça m'est assez inaccessible, justement par rapport aux contraintes que tu disais, Raph. Mais en même temps, c'est un rêve que j'aimerais bien essayer de vivre un jour, parce qu'il se passe des choses formidables et on peut créer plein de choses innovantes et essayer plein de trucs. Donc voilà, une petite utopie qui sert à avancer.
Alain, tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qui vient d'être dit?
Éventuellement, oui. La vie en collectif, c'est parfois des mini-vies. C'est-à-dire, on part avec une classe, quand j'étais enseignant, ça dure une semaine. Il se passe des trucs concentrés sur une semaine, comme une vie, des colos, des vacances avec les gens. Et à chaque fois, ça commence bien avec des sourires, des trucs géniaux et tout.
Et ça se finit mal.
Et ça se finit.
En cri avec
des pleurs. Quelquefois, il y a vrai qu'il y a des gens qui disent « on a fait un truc, ça s'est mal passé ». Mais c'est surtout le lendemain, la gueule de bois du vide.
C'est vrai, la fin d'un
séjour, d'un groupe, d'un truc en groupe et tout ça. Toujours, ici, quand on a fait des chantiers, tu te retrouves, tu es là pendant 3 semaines, le quatrième lundi, tu te réveilles, tiens, mon réveil n'a pas sonné, et tu te dis, merde, tu as du silence. C'est le mauvais côté de la vie en collectif, c'est le silence du lendemain.
Mmh. Ouais, c'est quand t'es plus en collectif finalement.
Ouais.
Faudrait être en collectif tout le temps.
C'est une drogue.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Du coup, nous, on a un peu donné tous notre vision de ce que c'est, pardon, le collectif. Notre première invitée du jour aussi, Lucille du collectif La Bougie, va nous en parler aussi de sa vision du collectif, parce qu'elle a expérimenté donc la vie en collectif avec la création de son collectif et d'un squat.
Oui, tout à fait. En fait, Lucille, je l'ai rencontrée dans le cadre d'une formation en pédagogie sociale avec l'association Intermède Robinson. Et en fait, dans cette formation, on a appris que le principe numéro 1 en pédagogie sociale, c'est que le pédagogue social lutte contre sa propre oppression. Pourquoi, me demanderez-vous? Et bien en fait, le terme pédagogue, ça fait référence à l'esclave qui était chargé de conduire, d'accompagner l'enfant auprès de son précepteur, donc l'équivalent du maître d'école. Donc le pédagogue, c'est celui qui, tout en étant opprimé, conduit une personne sur la voie de l'émancipation. Et quand Lucille, elle m'a raconté son expérience au sein de La Bougie, j'ai pensé à ces mots du pédagogue brésilien Paulo Freire, auteur de La pédagogie des opprimés, « Notre combat est votre émancipation et la nôtre ». Donc La Bougie, je l'ai perçue comme une expérience à vocation émancipatoire, c'est si rare qu'il faut en parler. Et donc, parce qu'il y a tant de choses qui sont inacceptables, ça fait du bien d'entendre ces voix qui, au-delà d'imaginer une autre manière d'habiter et de faire société, eh ben, ils se mettent en mouvement et pas à pas bousculent les représentations et créent des zones libérées à des fins de transformation locale. Allez, alors trouvez Lucille.
Don't get fooled by your attitude, 'cause we're gonna lick in defeat.
Lucille, tu as 27 ans et tu as quitté Paris pour aller expérimenter une vie en collectif à Bruxelles. Donc il y a 3 ans, avec 6 autres personnes, vous avez monté un collectif et ouvert un squat qui s'appelle La Bougie, dans la rue qui porte le même nom et qui se trouve dans le quartier Anderlecht au cœur de Bruxelles. Lucille, est-ce que tu peux nous présenter La Bougie en quelques mots ?
Alors du coup, La Bougie, c'était une grande maison toute vide dans laquelle on est rentré. On a dû faire plein de travaux et nous, on avait vraiment l'idée de... c'est de s'ouvrir sur le quartier et que cet espace il soit partagé avec bah, du coup, nos voisins et donc d'y faire des activités de type social, mais sans avoir de trucs très clairs en tête parce qu'on voulait pouvoir construire avec les gens et du coup voir un peu ce que ça allait donner. Mm-hmm. Et depuis, bah, il s'est passé plein d'activités, il y a plein de gens qui sont passés à vivre ici, on a été plein, on a été moins. Et voilà, c'est un lieu où il y a plein de vie.
Ok. Et bien justement, quand on regarde l'implantation de La Bougie, vous vous situez donc à Anderlecht, entre la gare de Bruxelles Midi et le canal. Donc vous avez élu domicile dans un grand bâtiment qui était autrefois les bureaux d'une usine de bougies, si je ne me trompe pas, qui se trouve juste en face. Après les bougies, l'usine a été reconvertie en entreprise de produits ménagers, c'est bien ça ?
Ouais.
Ok. Et donc aujourd'hui, cette usine, elle est réhabilitée en loft, un peu loft ghetto de riche, un petit peu, si on peut dire ça comme ça. Et vous, vous occupez les anciens bureaux abandonnés. Donc au départ, vous étiez 7, vous êtes monté jusqu'à 20 et aujourd'hui, vous êtes une douzaine. Comment fonctionne votre autogestion ? Comment vous vous organisez en interne ?
Alors du coup, il y a plein de manières de s'organiser. En principe, déjà, nous, on a 2 réunions par semaine, une réunion plus sur les activités, donc pour l'atelier vélo, pour les permanences avec les enfants, mais les activités plutôt portées par la maison. Mm-hmm. Et ensuite, on a une réunion de la maison, qui là, c'est plutôt qui c'est qui va faire les récups, quand c'est qu'on organise une journée ménage, et les négociations avec les propriétaires, des choses comme ça. Mm-hmm. Donc on essaye quand même d'être assez organisé avec une réunion semaine pour ces trucs-là. Ouais. Et ensuite, il y a eu différentes choses. Donc, l'idée, c'est que c'est horizontal. Alors, on a créé une association pour pouvoir négocier avec les institutions, récupérer des choses. Parfois, c'est bien d'avoir ce truc de façade, mais on ne fonctionne pas du tout de manière avec un CA, une AG, tout ça. C'est à chaque fois des réunions avec les personnes présentes. On note ce qu'on écrit, comme ça, on peut se l'envoyer par mail. Donc, même si on est absent, ça permet de suivre.
Ouais, ça l'aide.
Et ensuite, on essaye de faire que tout ne soit pas discuté. Enfin, qu'il y a des choses où aussi c'est vachement basé sur la conscience. Mmh. Et donc, on n'est pas obligé à chaque fois d'avoir une réunion pour si j'ai envie d'aller acheter telle chose avec de l'argent ou collectif ou quoi. On se fait un minimum conscience là-dessus. Donc, ça fonctionne bien. Et ensuite, il y a différents pôles où on essaie de plus en plus, même si ce n'était pas trop le cas au début, de reséparer. Donc, l'atelier vélo a ses réunions tout seul. Les permanences enfants essayent d'avoir des réunions tout seul. Mmh. L'épicerie avait sa réunion comme ça. Oui, on n'est pas obligé d'être impliqué à chaque fois dans toutes ces choses-là. Mmh. Et sinon, oui, pour tout ce qui est plutôt ménage et vie collective, on a passé par plein d'étapes différentes. On a parfois, il n'y avait rien qui était dit et c'était plutôt comme ça au feeling et ça marchait plus ou moins. Il y a des moments où ça ne marche plus. Du coup, on se dit, ah ben là, on va faire une journée ménage où tout le monde vient. Mmh. Après, il y a des moments où on a fait des tableaux des tâches où on s'est réparti chaque tâche pour une personne. Ça tourne, ça marche plus ou moins bien. Du coup, on essaye en vrai et ça n'arrête pas de bouger. Et c'est suivant les besoins et les ressentiments à différents moments. Et il y a des moments aussi où on a besoin de discuter de sujets plus de fond et plus généraux. Par exemple, si on continue l'hébergement d'urgence ou pas, des stratégies par rapport à la région pour rester ou quoi, qui sont nos propriétaires. Mmh. Et ça, on prend des après-midi entières où on essaie de faire des grandes réunions un peu pas de côté, qu'on appelle, où on essaie de prendre du temps pour réfléchir.
Ok. Trop bien. Vous avez vraiment à la fois expérimenté plein de liberté dans vos manières de vous organiser et en même temps aussi de cadrer un peu les choses pour vous permettre de vous y retrouver chacun individuellement, mais aussi collectivement, quoi.
C'est ça, un peu. Et il y a des choses qui demandent plus de temps, des choses qui demandent moins de temps. Après, on a les mêmes problèmes que tous les collectifs. Ouais. Il y a des moments où les réunions sont désertées. Pourquoi, comment, enfin.
Et c'est juste qu'ils discutent.
Les gens qui viennent en réunion ont plus de charges, etc. Et comment ça, c'est le plus inclusif possible. Mais, mais bon, ce qui est bien, c'est que ça évolue.
Ouais, c'est ça. C'est ça que j'aime bien. Et tu faisais référence à des réunions d'ateliers. Alors en effet, vous menez un certain nombre d'actions sociales, plutôt, qui sont parfois dans les murs, parfois hors les murs. Quelles activités et actions vous menez et à quelle fréquence ? Comment ça se passe ?
Moi, j'aime bien raconter peut-être le début de comment ça a commencé, ça, où du coup, on arrive dans le quartier, on se dit qu'on voulait faire des trucs avec le quartier, mais c'est pas du tout... enfin, évident, surtout qu'on était à la vieille maison bizarre du bout de la rue. Et donc, en fait, on est sorti sur la place à côté de chez nous, mmh. avec des crêpes et du café, pour se présenter un peu en disant, bon, on a cet espace, il n'est pas très utilisable, mais peut-être on va pouvoir en faire quelque chose ensemble. Qu'est-ce que vous aurez besoin, comment? Et c'est comme ça qu'on a rencontré surtout d'abord les enfants.
Ouais.
Et avec le parc et tout, parce que les enfants traînent beaucoup dans le quartier dehors, parfois tout seuls et tout.
Puis ils sont curieux, ils viennent.
Et donc, on a commencé. Quoi?
Ils sont curieux, ils viennent tout de suite, quoi.
Ah ouais, ils sont hyper curieux, c'est eux qui ont osé venir. D'abord, les plus téméraires, ensuite, ils ont ramené leurs amis, etc. Puis on a rencontré les parents. Et donc, c'est un peu comme ça que vraiment les ateliers ont commencé avec. Donc, c'était les goûters.
Ouais.
Et au fur et à mesure, maintenant, c'est devenu les permes du samedi après-midi. Donc, tous les samedis après-midi, de 14h à 18h, les enfants peuvent venir, c'est sans inscription, c'est gratuit et on fait différentes activités. Soit on peut aller au cinéma, on fait des crêpes, on joue aux jeux de société, on fait de la peinture, enfin plein de choses différentes. Donc, ça, c'est une grosse part des activités. On fait aussi de l'aide aux devoirs avec ces mêmes enfants et c'est en particulier un à un. Donc, ça, c'est assez chouette parce que ça permet d'avoir vraiment de bien avancer avec eux. Ensuite, on a un atelier vélo qui est ouvert deux fois par semaine, qui est un truc d'auto-réparation. On récupère plein d'objets. Donc, tout est gratuit et c'est assez, en prix libre, en participatif, mais c'est assez intéressant comment ils s'organisent. Ensuite, on a une donnerie de vêtements qui est ouverte une fois par semaine aussi. Où on récupère plein de vêtements et de choses. On fait ça. On a fait aussi plusieurs brocantes gratuites quand la donnerie devient trop remplie. Alors là, on sort un peu dans la rue et on ouvre et du coup, on fait ces choses-là. Et ensuite, il y avait une épicerie solidaire de légumes. Là, elle n'est plus trop présente, mais elle a été là assez longtemps.
Ouais.
Et on organise une autre chose qui est vraiment chouette, c'est qu'avec ces enfants qu'on voit souvent, on a organisé un camp de vacances, deux années de suite, où on part dans la campagne belge pendant quelques jours. Et ça, c'est vraiment, vraiment fun.
C'est trop bien.
Et après, le lieu, il est aussi utilisé. Ouais. Le lieu, il est aussi utilisé pour d'autres choses. Donc, il y a des collectifs qui viennent faire des petites réunions. Pendant le festival InterSquat, il peut y avoir des projections. Nous, ça nous arrive de faire 2-3 événements comme ça, une cantine par-ci, par-là. Il peut y avoir d'autres portées comme ça, des petits spectacles, un cabaret une fois. Enfin, c'est plutôt mon effet que ça reste vraiment pour le quartier, donc pas trop faire, on ne fait pas de fête.
Mais vous êtes quand même très ouvert sur l'extérieur parce que justement, en lien avec les autres collectifs, avec les autres assos, avec les voisins, etc. Donc,
C'est vrai que c'est aussi des partenariats avec les autres associations. Notamment, on a fait un atelier radio avec également une autre asso qui était super. Et les fêtes de quartier aussi, on tient des stands dehors.
Yes, trop bien. Mais justement, la bougie, c'est aussi... C'est aussi un lieu de vie au quotidien, un espace que vous habitez au sens propre. Comment vous êtes organisé, enfin comment vous avez organisé l'espace et comment vous faites pour subvenir à vos besoins, vous nourrir, meubler les lieux, etc.
Ouais. Alors, du coup, l'espace il est énorme, ça fait presque 900 mètres carrés, donc il faut quand même se dire que c'est très très grand.
Ouais.
Donc déjà, pour subvenir à nos besoins, on a quasiment tous une chambre individuelle.
Ouais.
Du coup, c'est déjà un besoin d'intimité qui peut être garanti, qui est super. Je pense qu'il aide aussi beaucoup. Et ensuite, alors, donc il y a les récups de nourriture, et ça, c'est assez bien organisé. À Bruxelles, il y a des gros réseaux, en fait, InterSquat et de trucs anti-gaspi qui marchent très bien. Donc, nous, on a une fois par semaine, on va dans un magasin bio où on va dans leur chambre froide et on prend les légumes de la journée. Alors, ils jettent quand même entre 40 et 100 kilos de légumes par jour, ce qui est quand même énorme.
Ah ouais, c'est énorme.
Et c'est un magasin et on est plusieurs assos à aller à ce magasin par semaine. Enfin, c'est vraiment assez impressionnant. Et du coup, on se nourrit de ces légumes bio. C'est quand même super chic.
C'est
tout gratuit. Et ensuite, il y a une autre asso qui s'appelle No Javel qui, elle, fait vraiment des grands tours pour aller chercher tous les invendus. Et on y va un peu en faim aussi. Après qu'ils aient distribué leur panier, on peut prendre un peu la faim. Donc ça, c'est pour la nourriture et donc ça fonctionne assez bien. Puis aussi dans le quartier, il y a beaucoup d'épiceries, tout ça. Et ils jettent aussi parfois des palettes de trucs. Là, la dernière en date, on a trouvé 3 palettes de pots de crème de marron dans la rue. Donc là, on mange des crèmes de marron tous les jours, mais c'est super. Donc on trouve, quoi. Et ensuite, pour les meubles, ça a été aussi beaucoup de choses trouvées dans la rue. Il n'y a pas trop de punaises de lit à Bruxelles comparé à Marseille, par exemple, où les gens ne reprennent plus rien. Donc, on a trouvé plein de choses. Dans la maison, il y avait aussi déjà beaucoup d'objets, beaucoup de meubles, etc. Donc, ça, c'était super. Il y a un magasin gratuit de meubles au bout de notre rue.
Ah, parfait.
C'est très bien aussi. Donc, ça, c'est parfait. Il a ouvert il y a moins longtemps, mais là, on trouve vraiment pas mal de choses. Il y a les puces aussi, le marché du jeu de balle qui, pendant très longtemps, avait la fin du marché. Il y a énormément de choses gratuites. Et donc, là aussi, on a beaucoup récupéré. Et voilà, donc tout ça. Et on s'était fait amis avec un brocanteur aussi qui, pendant le Covid, ne pouvait plus vendre. Et du coup, venait avec ses extraits, tout ce qu'il avait en
excédent,
trop.
Ouais.
venait nous les proposer. Et ça, c'était un peu rigolo.
Ah, c'est impressionnant, en fait, de voir tout ce qui existe à Bruxelles et à proximité de là où vous êtes, en fait, en termes d'accès gratuit. Je n'avais pas du tout connaissance de ça. C'est impressionnant.
Mais oui, il y a vraiment plein de trucs. Mais il semble qu'il y a vraiment des surplus de production de masques partout.
Ouais.
Et c'est vrai que moi, je suis plus... En Allemagne, je trouve qu'on voit parfois ça, un peu des petites boîtes en face de chez les gens où ils mettent des trucs à donner parce qu'ils peuvent. Et c'est vrai que moi, je Paris avant, il n'y a pas du tout ça. Alors que là, il y a vraiment cette... Tout le monde met devant sa fenêtre, sur son rebord de fenêtre, plein de choses à donner. Enfin, en fait, on trouve beaucoup de choses.
Trop bien.
Ouais, c'est chouette.
Alors, on arrive bientôt à la fin de l'interview. J'ai une dernière question, Lucille, pour toi. En préparant cette interview, tu m'as dit qu'il y avait autant de manières de décrire la bougie que de personnes qui la composent, qu'il y a bien sûr des points qui ne sont pas forcément partagés collectivement, mais que ce n'est pas grave, que ça n'empêche pas de vivre ensemble cette expérience collective, bien au contraire. Donc toi, Lucille, en tant qu'occupante, qu'est-ce que t'apporte cette manière de vivre, d'habiter l'espace, d'entrer en relation, de penser autrement le faire société ?
Oui, ben moi j'ai vraiment quitté Paris avec cette envie de créer un lieu comme ça, un lieu de vie et de partage, et on peut créer des solidarités, parce que ça, j'aime bien rencontrer en fait plein de gens, ça modifie toujours ma manière de voir, j'ai d'autres points de vue, ça ouvre d'autres réalités en fait, et parce que chaque monde voilà a sa réalité et sa propre vision du monde, et du coup parfois ça décale complètement le regard, et je crois que ça j'aime beaucoup. Et à Paris, je trouve que le milieu militant est un peu dur, et du coup, si on ne sait pas très bien, de toute façon, on va se tromper, ça ne marche pas. Alors qu'à Bruxelles, il y a vraiment ce côté où on essaye. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On est arrivé, c'était cassé. On s'est beaucoup posé la question avant d'entrer dans cette maison parce qu'il n'y a jamais une salle de bain ou de cuisine. Donc, ça faisait beaucoup de travaux. Il fallait installer des évacuations d'eau, tout ça. Et en fait, on s'est dit, si, on va essayer. Et en fait, du coup, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'autonomisation aussi. Je me posais énormément de questions sur comment la lumière arrive dans une lampe. Pour moi, avant, c'était de la biologie. Et c'était cette analogie la dernière fois de me dire, j'essaie de comprendre comment notre corps fonctionnait. Et maintenant, j'essaie de comprendre comment un immeuble fonctionne, en fait. Mmh. Comment les étages, ils tiennent les uns sur les autres. Comment l'électricité, elle arrive dans ma lampe. Comment l'eau, elle s'en va, elle arrive. Et en fait, tout ça, c'est pareil, c'est énervé en fait, et donc tous ces trucs invisibles qu'on voit pas qui sont dans les murs, j'ai adoré découvrir ça, découvrir comment on faisait tenir un mur, etc. Donc ça c'est super, et puis après c'est la réorganisation de son temps, de décider qu'est-ce qu'on fait, comment on l'emploie. Moi c'est très clair que le monde, je trouve qu'il va pas bien du tout, et qu'il est beaucoup trop d'injustice, et que c'est un système qui fonctionne pas du tout, et donc c'est essayer de se dire que ce serait possible de faire autrement, et donc de l'expérimenter, de montrer que ça peut apporter à nous-mêmes, et du coup c'est enviable, et que ça peut être chouette de faire ça. Et d'un autre côté, d'essayer de réfléchir ensemble à comment on peut changer ça. En fait, les maisons vides, c'est quand même insupportable, qu'il y en ait plein et qu'il y ait plein de gens à la rue, donc pourquoi on ne réouvrirait pas des maisons qu'on partagerait dans le quartier aussi, il y a plein de commerces, il y a plein d'espaces de sociabilité qu'on fermait au fur et à mesure, et du coup, de recréer des espaces où on se rencontre, où on rigole, ça c'est
vraiment hyper important. Enrichissant.
Et, et après, moi j'adore vivre à plein. Enfin, en vrai, d'avoir toujours quelqu'un dans ma cuisine pour pouvoir papoter un peu, de s'échanger tout le monde, ce qu'il lit, ce qu'il voit, ce qu'il raconte, ça c'est des trucs qui se laissent beaucoup. Et c'est
super.
Très agréable. Et de vivre avec plein d'amis comme ça. Et voilà.
Trop bien. Merci beaucoup, Lucille, pour d'avoir accepté déjà cette interview et pour tout ce que tu nous as présenté. C'est hyper, ça fait du bien d'entendre des gens parler comme ça et de constater qu'il y a des gens qui s'essayent à ça et qui expérimentent et qui n'ont pas peur de le faire et que ça fonctionne, quoi. Merci beaucoup.
Bonne journée.
Merci Lucille. Merci Lucille d'avoir accepté d'être avec nous en différé dans Bonjour Turbine. Merci Oxane pour l'interview. Tu m'as dit que tu voulais rajouter quelque chose.
C'était aussi que y a des squats en fait. Un des trucs que je trouve très riche dans les dynamiques autour des squats, c'est qu'il en existe une pluralité. Il y a des squats comme la Bougie à Bruxelles qui, entre autres, mènent des actions éducatives, sociales. D'autres comme la Gare XP à Paris, que j'ai fréquenté un peu quand j'étais plus jeune. Et à l'époque, en tout cas, c'était plus axé sur une dimension artistique et culturelle. Et il y a un point qui les rassemble, c'est la volonté en fait, de se réapproprier l'espace public, les lieux qui sont laissés en friche, et donc de lutter aussi contre le mal-logement. Et pour faire un rapide focus local, à Caen, il y a l'AG de lutte contre toutes les expulsions qui a officialisé le 1er novembre dernier l'ouverture d'un squat rue d'Auge pour loger des personnes exilées sans toit ni solution de logement. Et donc aujourd'hui, ce squat, il accueille plus d'une centaine de personnes. Donc je me demande même si c'est pas le plus grand squat ouvert depuis la fermeture du squat du Marais qui était près de la gare. Je suis pas sûre, mais... Et dans ce squat-là, d'ailleurs, il y avait des relations d'une immense richesse qui s'était créée et qui avait permis la mise en place, par exemple, d'une école nomade, d'ateliers de couture, de cuisine, enfin, d'un documentaire, Les Enfants du Marais, voilà, et tant d'autres choses. Et voilà, il y a aussi ces squats d'infortune, de situations plutôt subies initialement, qui finissent finalement par créer 1000 richesses. Donc,
ouais, et c'est vrai que je me rappelle quand le squat avait été fermé, ça fait un tollé, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, on en a beaucoup entendu parler.
Ça a été hyper médiatisé.
Ça a fait beaucoup parler.
Ouais, carrément. Et beaucoup de gens s'étaient mobilisés, d'ailleurs, protester contre. Quoi. Mm. C'était triste et beau en même temps.
Ouais, c'est ça. Sans transition, David, toi, tu nous parles d'une histoire aussi en collectif. C'est initié par un cheminot de la SNCF à la retraite dans ta chronique.
Voilà, je vais vous en dire un petit peu plus tout de suite.
Ok, bah jingle.
Je murmure gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes.
L'histoire de l'histoire avec David, entrée dans l'histoire dans Bonjour Turbine. Alors la vie en collectivité engendre parfois des situations épineuses, comme le souligne cet édito de Paul Auchon, le journaliste de France 3 Savoie. Alors allons-y pour cet édito. Xavier Pasquier, cheminot de la SNCF, qui à la retraite eut l'idée de réhabiliter la ligne des fromages, qui reliait Annecy à Abondance en passant par Beaufort et la Tôme de Savoie. Une utopie, mais il rôdait toujours autour des locomotives et des wagons désaffectés. Et après avoir restauré quelques wagons, il décida pour arrondir sa retraite de racoler les voyageurs en errance dans la gare d'Annecy, particulièrement les jours de grève qui sont nombreuses à la SNCF. C'est pas facile de trouver un hôtel quand on est planté sur un quai à la gare. Que cela ne tienne. Xavier Pasquier, notre ancien cheminot, proposait d'héberger pour quelques euros les voyageurs en transhumance dans des wagons-lits sur des voies de garage, une aubaine. Puisqu'il vendait aussi des jambons-beurre, le gîte et le couvert que demande le peuple. Ce petit job de marchand de sommeil, peu lucratif au départ, prit de l'ampleur. Et même du standing. De la clientèle s'élargit aussi en passant des SDF à la bourgeoisie. Ces voyageurs, touristes de passage venus visiter la Savoie, trouvaient décidément excessifs les tarifs pratiqués dans les établissements d'Annecy et de sa région. Sans compter ceux sur les abords du lac qui étaient inaccessibles. Sur les voies de garage, de nombreux wagons-lits s'alignaient sous la houlette de Pasquier, car il avait fallu ajouter des voitures, tant le succès était retentissant. C'était devenu une mode de coucher dans un wagon, comme on couche dans un bungalow, une yourte ou une cabane perchée. Bien entendu, la SNCF fermait les yeux sur ses trafics, car quand il fallait repartir... j'ai un chat dans la gorge, prenait le train, tandis que d'autres préféraient butiner ou encore un peu dans les alpages autour ou folâtrer dans la neige redevenue abondante. La municipalité elle-même fermait les yeux, mais dans l'opposition, certains trouvaient que les activités de l'ancien chemineux prenaient un tour abusif et qu'elles engendraient des bénéfices non soumis aux droits de séjour et à la taxe d'habitation, et cela faisait jaser. Et d'autant que Xavier diffusait dans son train immobile des annonces telles que « Mesdames et messieurs, vous avez pris place à bord du train Lunéa 8422 en partance d'Annecy et à destination de Nice. Il desservira les gares de Strasbourg, Châteaubriant, L'Aulne-Saunier, Pouziou et Nice, son terminus. Il projetait des voyages virtuels en France sur les vitres à l'intérieur des compartiments pour berner sa clientèle de voyageurs drogués aux herbes folles et dans d'autres wagons. Il organisait des conférences sur la biodiversité, le régime alimentaire en milieu désertique et le pompage de l'eau des Vian dans le lac Léman. Comble d'aliénation, il engagea un gourou qui faisait croire à tout un convoi de noctambules qu'il voyageait en direction de la gare de Marseille-Saint-Charles. Un autre jour, John, le bassiste du groupe Les Portugais, qui cherchait une place assise, fut obligé de s'installer à l'intérieur de sa contrebasse, ce qui provoqua un scandale car il sortait tout juste du violon. Et d'après nos renseignements, il y est toujours incarcéré. On avait évoqué aussi le cas de Germaine, une ménagère de 40 ans, dans la Manche, qui ne faisait pas son âge, mais qui sentait fort des pieds. On l'a obligée de se déchausser pour respirer l'ambiance de l'ancienne ligne des fromages. Tout ceci pour dire que la vie en communauté n'est pas toujours facile en cas de promiscuité. C'est pourquoi nous sommes opposés aux élevages de poules en batterie, à l'extension des porcheries à cause du cri du cochon, à l'abattage des canards et des oies dans la période des fêtes de Noël. L'exemple de Xavier Pasquier n'est pas unique, mais il est symptomatique d'épitudes grégaires qui sont des dommages collatéraux du Covid-19 et de la dégénérescence des entreprises publiques à la charge du contribuable.
Ça sent bizarre là, vous trouvez pas? Non? Il n'y a que moi, ça sent bizarre là, non?
Oui, ça sent
un peu le fromage,
bizarre,
non?
Oui. Mais c'est toujours le problème avec ça, avec l'abondance et l'atome de savoir.
Mmh. Ah, c'est bien ce que je pensais. Bon, trêve de plaisanterie, bravo pour ta chronique, David.
Merci.
Mais tout le monde t'a déjà applaudi, donc voilà. Dans quelques minutes, nous allons avoir Noane Serli en ligne. Elle a rédigé un papier dans grand format sur la vie en collectif. Avant ça, on va écouter Song Tu du groupe londonien Blur. On se retrouve juste après. C'était Song Tu de Blur. Et info d'ailleurs, pour ceux qui seraient passés à côté, Beauregard les a annoncés. Là, ils ont annoncé le début de leur programmation pour l'édition 2023. Et donc du coup, Damon Albarn et sa bande sont de la partie. La dernière fois qu'ils étaient passés en France, petite info aussi, petite anecdote, c'était en 2015. Voilà. Donc concert-événement, du coup, le 6 juillet 2023 au domaine de Beauregard. Aux dernières infos, là, il y a uniquement deux dates de Blur qui sont annoncées en France, et dont une à Beauregard. Donc c'est quand même très classe. Je pense que le fait que la Normandie soit près de l'Angleterre n'est pas un hasard. Voilà, vous êtes toujours dans Bonjour Turbine, sujet du jour, la vie en collectif. On a pu avoir donc, la vision de la vie en collectif de Lucille, du collectif La Bougie, juste avant. Et là, nous allons avoir un autre son de cloche à présent. Il se trouve que Grand Format, média normand partenaire du Media Lab, a publié l'an dernier un long reportage intitulé « Le pari de la vie collective ». Donc pour en parler, Raphaël, il est avec nous en studio et il y a Noan Esserli qui est toujours en duplex qui a écrit cet article. Bonjour Noan, bienvenue dans Bonjour Turbine.
Bonjour, merci.
Alors Noan, comme l'a dit Théo, tu es journaliste photo, radio, il t'arrive aussi d'écrire, en l'occurrence ton article pour Grand Format mêle les trois. Ton sujet de prédilection, c'est les mouvements sociaux, si j'ai bien suivi. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à te pencher sur la question de la vie collective ?
Alors c'est un sujet qui m'intéresse depuis assez longtemps, on va dire. Et puis là, en fait, c'est Simon Gouin, le rédacteur en chef de Grand Format, qui m'a proposé le sujet. Et du coup, en Normandie, qui est un territoire que je connais plutôt bien parce que je suis du coin, enfin du côté de Coutances. Et donc, enfin, moi, le sujet m'a tout de suite intéressé, notamment. Donc, il y avait l'idée de parler des lieux collectifs, mais aussi voir toutes les problématiques que ça pouvait poser et donc comment on fait pour cohabiter. Donc, j'ai accepté le sujet avec plaisir.
Alors, dans l'article, on va le résumer rapidement, puisque ceux qui nous écoutent ne l'ont pas forcément lu. Ils iront le lire sans doute après cette émission. Il y a trois chapitres, comme souvent dans les histoires de grand format, trois exemples. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement et puis nous dire aussi pourquoi tu as choisi cela ?
Ouais, alors, j'ai choisi... Des différences.
Alors, la connexion bug un petit peu. On va espérer que ça se rétablisse. Et puis, du coup, je vais te laisser reprendre ta réponse pour qu'elle ne soit pas coupée.
Ouais, donc je disais que ces trois exemples, ils sont assez différents. C'est pour ça que je les ai choisis. Donc, c'est ça qui est assez intéressant aussi, même s'il y a des similitudes. Donc, le premier épisode, c'est une colocation intergénérationnelle entre Marie-Thérèse et Ambrine, qui habitent à Sartie. Et donc, c'est via une association qui s'appelle l'association Lien qu'elles ont été mises en relation, et donc elles habitent ensemble. Et elles racontent un peu leur expérience de cette colocation-là, qui a pour but de briser un peu la solitude, notamment des personnes âgées, qui est assez immense en fait en France, et qui a été notamment accentuée avec la période de Covid. Donc voilà, le deuxième épisode, c'est sur le Perche. Donc c'est un lieu qui a rassemblé 8 personnes, 8 jeunes. En 2021 ou 2020. Leur expérience a duré un an, donc aujourd'hui ça n'existe plus. Et donc voilà, c'est plutôt des jeunes qui ont globalement quitté leur travail en ville ou voulu changer assez drastiquement de mode de vie. Avec le but de viser l'autonomie, notamment énergétique ou alimentaire. Et donc ça raconte un peu l'histoire de ce collectif-là qui s'est monté assez rapidement en plus. C'est ça aussi potentiellement qui a fait que ça n'a pas marché très longtemps parce que les personnes se connaissaient assez peu. Voilà. Et donc le troisième épisode, c'est sur les éco-bâtisseurs. Les éco-bâtisseurs, c'est un collectif à Louvigny. C'est un éco-quartier qui a aujourd'hui plus de 10 ans. Donc là, ça montre quelque chose d'assez différent. Un collectif qui tient depuis pas mal d'années et qui continue d'exister aujourd'hui. Et qui est assez différent aussi parce que chaque famille a sa maison assez distincte. Et les décisions sont prises collectivement aussi. Donc voilà, ça raconte l'histoire de ces trois lieux collectifs qui ont chacun leur spécificité.
Alors justement, peut-être avant de parler un peu des enseignements qu'on peut tirer de cet article, parce que voilà, ça dit beaucoup de choses sur les avantages et les inconvénients de la vie collective, on peut écouter un son qui figure dans le reportage, puisque Grand Format, c'est du multimédia, donc tu as mis un peu de son aussi, où on entend quelques-uns des éco-bâtisseurs parler de cette expérience de vie dans leur éco-quartier.
Donc Jocelyn Parot, j'ai 40 ans maintenant et je suis aux éco-bâtisseurs depuis janvier 2017. Avec notre petite famille, on est arrivés tous ensemble avec Réa, Saïma et Joachim, et je vais parler en mon nom, pas en leur nom à eux.
Donc, je m'appelle Hélène, je vis aux Éco-Bâtisseurs depuis la création, j'ai 64 ans, je suis à la retraite, entre guillemets, mais je suis également auto-entrepreneuse, parce que je suis sophrologue et j'ai mon cabinet à la maison.
Donc, je m'appelle Annie Bons, je suis dans le projet depuis quasiment le début du projet.
Le collectif, c'est un collectif, des fois, parfois c'est génial. Et puis dans des moments partagés, c'est vraiment, ça peut être vraiment très très fort. C'est vrai qu'il y a eu des moments super, avec des moments de chorale super, des moments de fête pour les enfants super. Et on est là, on se mobilise, on se mobilise. On se mobilise pour des choses collectives, on fait du tous les ans du jus de pomme ensemble. Ça tourne, c'est pas toujours la même famille, mais voilà, c'est du collectif, c'est du partagé.
La vie collective à la fois me plaît beaucoup et à la fois m'étonne. Enfin, je suis surprise de m'y être aussi bien et aussi vite adaptée parce que ce n'était pas du tout le genre de vie que je menais préalablement.
On vit vraiment une aventure collective. On est dans un mode exploratoire, en fait. On essaie de comprendre comment habiter la Terre, la planète, d'une manière différente. Donc résilience et puis enracinement aussi, c'est-à-dire arriver à vivre, à habiter un lieu en commun, à le construire petit à commune, façonner des espaces communs, mais aussi des modes de fonctionnement collectifs. C'est vraiment l'idée de faire un bout de chemin avec des voisins avec qui on a une relation particulière, assez forte.
Anecdote concernant cette vie collective, c'est que quand il s'est agi d'acheter des tables pour la maison commune, des tables qui puissent aller dehors, à l'intérieur, qui puissent se plier facilement, on a mis pas tout à fait 10 ans, 9 ans et demi avant d'acheter ces tables, tellement la décision a été longue à prendre. On en avait trouvé des pas chères, mais elles n'étaient pas belles, elles ressemblaient à des tables d'école. Enfin voilà, ça c'est la vie collective aussi, c'est-à-dire que pour que tout le monde soit d'accord, c'est très long, ça peut être très long. Et voilà, apparemment les gens ont le temps et j'apprécie ce temps.
Alors on voit à travers ces témoignages d'éco-bâtisseurs que la vie collective, comme tu le dis dans le titre de ton article, est vraiment un pari. Ça a été une évidence de ce côté pari en fait de la vie collective, de mettre ça comme titre de ton histoire, Noan.
Ouais, alors j'ai pas entendu toute la question du coup, mais je vois sur quoi elle porte. Je peux peut-être essayer de répondre. Parfois ça bug.
Vas-y, on t'écoute.
Ouais, en fait, ce qui est assez intéressant dans les lieux collectifs, c'est que ça pose forcément la question de la cohabitation. Et donc, du coup, de l'organisation au quotidien. Et donc, ça pose encore plein d'autres questions de est-ce qu'on fait des réus, des réunions, comment on fonctionne pour être décisionnaire, est-ce qu'on fait au vote, donc à la majorité, est-ce qu'on fait au consensus, etc. Et donc, déjà, se poser toutes ces questions, c'est assez important parce qu'il y a plein de manières de faire différentes. Et là, aux éco-bâtisseurs, le choix, ça a été de faire au consensus. Et s'il y a un problème pendant une réunion, qu'on n'arrive pas à résoudre ce problème-là, c'est reporté à la suivante. Donc, en fait, ce que dit Annie Bons à la fin, acheter des... De discuter, de se mettre d'accord. Et donc, ça a pu prendre plusieurs semaines. Mais là où c'est intéressant, c'est que pour ces personnes-là, ça vaut le coup de prendre le temps. Et en fait, on est c'est ça aussi qui est intéressant à mettre en avant, c'est que on vit quand même dans un milieu, de manière générale, quand on ne vit pas en lieu collectif, dans un milieu assez individualiste et libéraliste, où le fait de prendre des décisions collectives qui font consensus, c'est pas du tout une normalité. Et donc remettre ça en avant et expliquer comment des personnes essayent de faire autrement, c'était intéressant.
Et là, du coup, les éco-bâtisseurs, c'est un exemple qui marche parce que ça fait plus de 10 ans que ça existe. Comme on le disait tout à l'heure, les 80, là, cette grande coloc dans une maison, dans le Perche, née avec le Covid, le confinement, ça s'est terminé cette année, je crois, au mois de mai. Du coup, le cap de la vie collective est parfois difficile à maintenir. C'est ce que ça montre aussi, même si ça, tu ne le racontes pas dans l'article. Il n'y a que le début et pas la fin.
Ouais, je veux bien que tu répètes juste la fin de ta question parce que ça coupe.
Ouais, je disais, du coup, là on voit qu'entre les différents exemples, les éco-bâtisseurs, les quatre vents, là sur les quatre vents, tu racontes le début de l'histoire et la fin, ouais, de l'histoire, c'est que ça s'est terminé. Et du coup, voilà, la vie collective, forcément, ça ne marche pas toujours. C'est ce que ça montre aussi.
Ouais, et en fait, moi j'avais l'impression quand même, avant de faire le reportage, que très souvent, et notamment quand c'est des éco-quartiers, on a une vision hyper idéalisée de ce que ça peut être, que ça fonctionne super bien, que c'est le collectif, que c'est beau, que ça apporte plein de choses, etc. Et en fait, c'est quand même intéressant de montrer déjà que ça peut poser plein de problèmes, que ce soit organisationnel, relationnel, économique parfois, etc. Et que aussi ça peut ne pas marcher ou ça peut s'arrêter. Pas du tout. Enfin, je pense que les personnes qui étaient aux 80 en gardent quand même une bonne expérience. Mais je trouve ça intéressant de montrer qu'il y a plein de choses positives, mais il y a aussi des choses qui parfois marchent pas. Et je crois que sur les lieux collectifs, il n'y a pas encore de recette magique. Il faut tester, il faut expérimenter. Et il y a plein de manières différentes d'expérimenter, du coup.
Et des expérimentations nécessaires, parce que les recommandations sur la sobriété notamment montrent qu'il faudrait être plus de personnes par foyer. Voilà, c'est des bons exemples à prendre. C'est Le pari de la vie collective, donc article que tu as écrit. Tu as fait les photos, les sons aussi sur grand format. Peut-être un mot sur le sujet sur lequel tu es en train de travailler, un sujet sur lequel tu es en train de travailler, et dans quels médias ce sera publié, Noan?
Alors, en ce moment, je suis en train de travailler toujours pour grand format, du coup, j'ai continué avec eux, sur la souffrance des agriculteurs en Normandie dans la filière du lait. Donc, c'est un sujet assez gros et pas évident, mais hyper intéressant aussi. Et pour Radio Parleur aussi, avec qui je travaille souvent, je finis un documentaire sur les squats politiques d'activité.
Eh ben merci, on va aller lire et écouter ça aussi. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Et puis, à très vite.
Avec plaisir. Merci.
Merci. Merci, Noan. Merci, Raphaël. On reste dans le thème, Alain, nous, collectif. Tu vas nous parler d'un moyen, justement, d'animer cette vie en collectif. De quoi est-ce que tu vas nous parler dans ta chronique du jour?
Aujourd'hui, dans mon agenda culturel, je vais vous parler de jeux.
Ok. Eh ben, c'est parti. De jeux, mais tu nous parles de quel jeu en particulier?
Je vais te parler de jeux de société, mais pas n'importe quel jeu.
Alors tu vas nous parler de la bataille, du Rami, du Purple, de la pyramide et du palmier?
Non, je vais te parler de jeux coopératifs.
Des jeux coopératifs? Comment ça?
Oui, des jeux où l'on ne joue pas contre pour gagner, mais avec.
Ah ok, donc alors c'est des jeux qui a priori permettraient de jouer avec des mauvais joueurs.
Tout à fait.
Ça pourrait être une bonne chose quand même.
Tout à fait.
Ok. Alors, du coup, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ces jeux coopératifs?
Alors, pour préparer cette rubrique, je suis allé prendre conseil dans une chouette librairie dont j'ai déjà parlé à ce micro, la librairie Café Place 26, située Place Le Sage à Douvres, la Délivrande. Je remercie Véronique et Christophe pour leur accueil dans leur librairie qui propose aussi des jeux, donc. Et si l'on ne trouve pas immédiatement ce qu'on cherche, les commandes arrivent très rapidement. C'est un lieu à découvrir absolument.
Et donc pour nos éditeurs de Douvres, donc j'espère que vous avez bien noté l'adresse. Alain, est-ce que tu nous as fait du coup pour cette chronique un petit florilège de jeux collaboratifs qu'on peut retrouver nous partout?
Oui, je vous propose un choix subjectif donc que l'on peut trouver dans tous les magasins spécialisés, Place 26, mais aussi des magasins tels le Pion Magique à Caen ou le Double 6. Pour commencer, je vais vous parler d'une série de trois jeux pour les 2 à 10 ans qui s'appelle Les Vergers, Premier Verger et Le Petit Verger, qui sont tous édités chez Abba, c'est un éditeur allemand. Alors, les fruits mûrissent au verger, mais le corbeau et autres volatiles guettent.
Il faut récolter les cerises et autres fruits avant l'arrivée des oiseaux. Le succès du jeu créé en 1986 ne faiblit pas, c'est un classique. Parce que c'est vrai que dans nos auditeurs, on a aussi sûrement des parents qui sont intéressés par des jeux pour leurs petits.
Bah oui, complètement.
Alors un autre classique, Loup-garou de Tiercelieu. Une série de Philippe de Palière et Hervé Marly à partir de 8 ans. Un univers fantastique aux éditions lui-même. Il existe un site internet dédié à ce jeu.
Ah ouais, bah celui-là, je pense que le loup-garou, les dernières générations, on y a un peu tous. On a bien mangé, bouffé du loup-garou, je pense. Hein.
Eh ouais, mais c'est un classique.
Ouais, c'est vrai.
Alors sinon, à partir de 11 ans et plus, un jeu qui vient de sortir qui s'appelle Harry Potter, Bataille à Poudlard. Ça, c'est la traduction française. Aux éditions Forest Prusane Creative. Ce sont 7 aventures où vous endossez les rôles de Harry, Hermione, Ron pour vaincre. Qui vous savez ?
Celui dont il ne faut pas prononcer le nom.
Celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Alors, pour les plus grands maintenant, et pour les adultes, mais aussi pour les grands-enfants, une série classique, la série des Unlock. Unlock, c'est un jeu de cartes coopératif inspiré des Escape Rooms. Ce jeu de déduction et d'aventure vous fait vivre ces expériences chez vous, autour d'une table. À Caen, il existe aussi plusieurs lieux d'escape game, tels Petit Meurtre entre Amis, 34 Avenue de la Libération, et même une boîte de jeux mystère dans Caen qui permet de faire des découvertes sur la ville. D'autres à Caen, Atom Game, Caen You Escape, ou encore Get Out Caen, et d'autres encore dans les environs, à Mondeville. Il suffit d'aller sur Internet, taper Escape Game sur Caen, et on a plein d'adresses. Alors deux autres jeux coopératifs qui viennent de sortir qui s'appellent Timescape Sherlock Holmes aux éditions Solar. Vous êtes à Londres en 1888 dans le bureau de Sherlock Holmes et perd la mémoire.
Aïe.
Un autre jeu aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Carte Aventura Vinland aux éditions Blam. C'est un jeu créé en collaboration avec le parc Ornavik d'Hérouville par Thomas Dupont et Arnaud Ladagnou qui vous emmène sur les traces d'Éric le Rouge avec les Vikings. J'ai testé, j'adore. Et ce qui est génial, c'est que c'est un jeu où l'on peut jouer tout seul. On se met vite d'accord avec soi-même, mais pas toujours. Donc, c'est génial. Je vais terminer par un jeu qui n'est pas que coopératif, mais qui m'a donné envie. Ça s'appelle Famille, presque zéro déchet, chez BioViva. Ta mission, si tu l'acceptes, devenir un héros du zéro. Alors ça, c'était un petit florilège de jeux, soit des escape games, soit des jeux en boîte. Pour être complet, il existe aussi des jeux coopératifs basés sur des valeurs pacifistes, laïques, de partage. Vous pouvez trouver ceci sur les sites des CMEA, de la Ligue de l'Enseignement. Là, ça sera plus sportif et coopératif. Ou encore des Franca, association laïque d'éducation populaire. Des jeux qu'on a beaucoup d'entre nous joué ou fait jouer dans des colos, des séjours de vacances, des stages, qui donnent vraiment des valeurs. Et ça, c'est important quand on voit ce qui se passe dans un certain nombre de jeux ou de sports. Je ne parlerai pas de football, mais ça fait du bien des fois de remettre un peu les pieds sur terre. Une dernière info qui n'a rien à voir avec les jeux. Samedi 26 novembre, Monsieur Charlie, qu'on a reçu ici plusieurs fois, sera en dédicace, toujours à Place 26 à Douvres, de 10h30 à 12h30 pour son livre hilarant, je vous garantis, À quand les vacances ? Quand je l'ai lu cet été, j'ai dû passer pour un fada parce que je disais ça sur la plage. Et tout ça. Je me suis bidonné pendant toute la lecture. Donc je vous le conseille, je répète, À quand les vacances ? Et il y aura aussi Germain Arrigoni, qui est un journaliste auteur de la BD Un truc de foot dessiné par Faro, qui a dessiné entre autres Deschamps, premier roi des Bleus, et Je m'appelle Kylian. Donc ils seront tous les deux en dédicace, Charlie et Germain Arrigoni, à la librairie, où on pourra boire un café ou autre chose. Et je pense que ça sera un très bon moment.
Très bien, bah merci Alain. En tout cas, Deschamps, premier roi des Bleus, et Je m'appelle Kylian. On en revient quand même au foot, hein, visiblement. Malheureusement, on y retourne quand même. Donc, le samedi 26 novembre, rendez-vous place 26 à Douvres à 10h30. Et que du coup, comme son nom l'indique, c'est au 26 place Georges Le Sage. Lafken, je vois que tu trépines d'impatience. Là, t'as envie de faire ta chronique. T'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Par contre, avant de te donner la parole, on va écouter une musique. Ça te dérange pas trop ?
Il va falloir.
Ouais, de toute façon, t'as pas trop le choix. Donc, Non, bah, je rigole. On va écouter Redbone de Childish Gambino, puis on retrouve Lafken juste après pour sa chronique. C'était Redbone de Childish Gambino. Information de dernière minute qu'on m'a glissé pendant la musique, justement. Du 25 au 27 novembre au Chemin Vert au Sillon, Festival du jeu et de l'imaginaire. Voilà, donc allez y faire un tour. Lafken, c'est bon, je te laisse, c'est à toi.
Vous saviez que j'avais une communauté dans la tête ? Je ne vous ferai pas de reprise d'une ancienne chronique et vous parlerez comment se passe la vie en collectivité pour des génies comme moi. Chaque matin, lorsque je prends le bus, je sens le regard des gens, un jugement porté. La même chose quand je fais mes courses ou quand je vais au cinéma. Dans l'esprit de vie en collectivité, je m'attendais à des regards neutres ou bien qui invitent à construire quelque chose ensemble. Rien de tout ça, aucun avenir. Je ne comprends pas comment on peut prôner l'esprit collectif et juger un homme qui se balade en costume trois pièces en papier mâché.
Dali était-il fou ou sans esprit ? Picasso voyait-il le monde en cube ?
Ok.
La poule vient de l'œuf, mais l'œuf vient de la poule. La folie, c'est de répéter la même action encore et encore en pensant que ça va changer le résultat.
Encore, encore.
Comment l'homme s'est dit qu'il pouvait boire ce qui sortait de la vache ? Qui est le premier à s'être demandé si c'était normal d'avoir des voix dans sa tête ? Si j'achète du pain avec un tableau, ce serait une croûte ? C'est ça, la folie.
Créative.
Le collectif, c'est ce mélange. Et quoi de mieux que de parler de ce mélange en abordant la thématique des couleurs ? À la microfolie, mon collègue Erwan vous expliquera comment les couleurs ont évolué au fil des temps. Et pourquoi aujourd'hui on broie du noir, qu'on est vert de rage ou qu'on voit la vie en rose. Ce sera le jeudi 24 novembre à 14h30. Et vu qu'on la joue pas perso, on parle aussi du festival alimentaire et on vous parle des meilleurs en termes de coopération et collectivité, les abeilles. Oui, j'ai préparé une autre blague mais je la ferai pas, elle était un peu trop offline. Le jeudi 24 novembre, du coup, on diffusera le film Une Terre sans abeilles. Allez, je vous donne une dernière info pour ceux qui cherchent des idées de cadeaux de Noël. On a une animation le 3 décembre qui consiste à créer en 3D ou bien de personnaliser des textiles pour les offrir à vos proches ou à ceux que vous détestez. Oui, si parmi vous il y en a qui me détestent, écoutez bien ça et offrez-moi des choses. Bref, collectivement, nous sommes bons. Mais ça ne vaut pas ceux qui seront dans le quiz. La thématique va être un peu différente. On parle toujours de collectivité, de coopération. On va chercher dans le monde des films, livres et dans la vraie vie ce qui pourrait correspondre. Plusieurs réponses acceptées. J'ai besoin d'un groupe d'adolescents pour me sortir d'une mauvaise situation ou encore m'aider à résoudre des énigmes ou lire des cartes au trésor. Qui pourrais-je appeler ? Alors j'ai entendu une réponse par là. Le micro dans la tête.
Les Goonies.
Effectivement, on pourrait appeler les Goonies. D'autres idées, peut-être ?
Tu peux répéter la question ?
J'ai besoin d'un groupe d'adolescents pour me sortir d'une mauvaise situation ou encore m'aider à résoudre des énigmes ou lire des cartes au trésor. Qui pourrais-je appeler ?
Club des 5.
Effectivement, on peut avoir le Club des 5. On aurait aussi parlé...
Scooby-Doo ?
On aurait pu parler de Scooby-Doo. Alors après, Scooby-Doo, ils sont un peu moins adolescents, ils conduisent une voiture.
Stranger Things.
Ouais,
on peut avoir Stranger Things, on peut avoir les 4 de Baker Street, les Goonies. Bref, vous comprenez vite, il y a plein de réponses possibles. Donc je vous invite chacun peut-être à sortir plein d'idées. Cette fois-ci, je vais chercher un duo qui est composé d'un militaire et d'un esprit brillant qui ensemble résolvent des mystères. Alors, on m'a sorti Sherlock. Alors, ouais, mais Sherlock est accompagné de qui ?
Docteur Watson.
Donc, on a Sherlock et Watson.
Blake et Mortimer.
Bien, excellente réponse. Oh, j'allais sortir un petit peu un indice avec le mystère de la chambre jaune. Alors, est-ce que vous avez d'autres idées un petit peu de... Ça peut être aussi dans les films, séries.
Tintin.
Alors, Tintin. Bon, alors, Haddock, je crois pas qu'il soit militaire, mais pourquoi pas ?
Il était pas dans la marine.
Bah, il est dans la marine, hein ?
Il est dans la marine.
Les détectives Black et White dans Bon baiser de partout, Pierre Dac et Francis Blanche, pour les très anciens comme moi. Roucombaluzier aussi dans Les Ascenseurs. Mais...
C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, avec un Alain, vous pouvez avoir plein de réponses différentes.
Que et tu n'avais même pas prévu.
Exactement.
Personne va aller vérifier si c'est vrai.
Ayez un Alain chez vous. Maintenant, il me faudrait un groupe musical où les artistes sont maquillés et ensemble vous invitent dans un univers.
Kiss.
Kiss.
Kiss. On a Kiss, mais il n'y a pas que Kiss qui vous invite dans leur univers.
Obligatoire que ce soit un groupe ?
Alors oui, de préférence.
Donc Lady Gargantua. Gaga et ses musiciens, ça marche pas.
Gargantua.
Lordi, non, aussi. Je crois qu'ils sont déguisés.
Ah, c'est plus des masques là qu'il y a des maquillages.
Lordi,
mais...
pour le coup, je me pose la question, effectivement. Mais alors, si on part dans l'univers du métal, vous avez par exemple un groupe comme Slipknot, qui porte des masques. Mais on pourrait aussi parler du monde du rap avec des artistes comme Stupéflip.
Ah.
T'avais Peter Gabriel aussi dans Genesis, premier temps.
Ah, il était un peu tout seul.
Ouais, mais le masque était là quand même. Un très beau masque.
Alors, là on va aller dans quelque chose un peu plus touchy. J'ai posté une annonce pour entrer dans un groupe très secret et connu pour son aspect collectif. Qui pourrait me répondre ?
J'ai pas compris.
Skippy le Gorgoro ?
Je...
Vous pouvez répéter la question.
J'aurais besoin de rentrer dans un groupe très secret et connu pour son aspect collectif qui pourrait me répondre.
M.
M.
Ouais, James Bond, il fait partie d'un collectif un peu, non ?
Ah, le MI6. Ouais. D'accord. Oui, bon, alors c'est un groupe très secret, effectivement.
Très, très secret.
Alors je pensais peut-être à des groupes plus. Ah, il y a peut-être une.
C'est groupe de musique, c'est.
Ah, alors c'est peut-être groupe du style secte, ça peut être.
Bah, j'allais dire Jean-Luc Mélenchon pour les francs-maçons.
Alors, les francs-maçons, Jean-Luc Mélenchon, je ne savais pas, mais...
Je sais de source sûre que...
Francs-maçons, effectivement. On aurait aussi pu parler des Anonymous, ou même du Fight Club.
Camoulox.
Ah, ouais, bah oui,
ah, bah le Fight Club, voilà. Il fallait forcément que je la cale.
Je vais en parler. La numéro 1 du Fight Club, on ne parle pas du Fight Club.
On va juste finir avec une petite dernière, si j'ai une
bien
petite
sûr.
Minute. Et il faudrait que je finisse... Effectivement, avec un événement où je pourrais trouver des partenaires pour réaliser un court-métrage ou un jeu.
Kino.
Alors, on me propose effectivement, il y a les kinos, vous pouvez aussi trouver les off-cours, les game jam, le Cherbourg Project, bref, tous ces projets où vous pouvez facilement vous rendre et en 72 heures, trouver des gens et réaliser ensemble. Bref, avec tous ces exemples, on voit que le collaboratif est à l'honneur. En tout cas, moi et mon collectif intracrânien, on vous salue. Et on vous rappelle que seul, on avance vite. Ensemble, on avance loin.
Ouais. Ouh. Merci Lafken pour ton jeu qui clôture toujours à merveille les émissions Bonjour Turbine. Merci à tous d'avoir été présents. Marion, Maxence à la technique, Alain, Oxane, Raphaël, Lafken, David, Thomas et Germaine. Non, je confonds. Non, Germaine, c'est... Non. Mm-hmm. C'était dans ta tête qu'elle était, David. Parce que...
On l'a bien senti,
ouais. Ouais. Voilà, ça sent le fromage dans le plateau. Va falloir qu'on aère là. Il y a trop de monde dans le plateau. Et merci aussi à Lucille du collectif La Bougie de s'être prêtée au jeu de l'interview et à Noah et Serly d'avoir été en duplex avec nous. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout ce Bonjour Turbine consacré à la vie en collectif. À très vite. Salut. Et n'oubliez pas de suivre les réseaux sociaux du WIP si vous voulez ne pas manquer les prochains Bonjour Turbine.
Salut Théo.